Depuis 20 ans au service de la comtesse, ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon. On se demande donc comment Danègre a pu sortir de l'appartement. S'était-il fait faire une autre clé? L'instruction éclaircira ces différents points. L'instruction n'éclaircit absolument rien, au contraire. On apprit que Victor Danègre était un récidiviste dangereux, un alcoolique et un débauché, qu'un coup de couteau n'effrayait pas. Mais l'affaire elle-même semblait, au fur et à mesure qu'on l'étudiait, s'envelopper de ténèbres plus épaisses et de contradictions plus inexplicables. D'abord, une demoiselle de Saint-Clève, cousine et unique héritière de la victime, déclara que la comtesse, un mois avant sa mort, lui avait confié dans une de ses lettres la façon dont elle cachait la perle noire. Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre, elle en constatait la disparition. Qui l'avait volée? De leur côté, les concierges racontèrent qu'ils avaient ouvert la porte à un individu lequel était monté chez le docteur Harel. On manda le docteur. Personne n'avait sonné chez lui. Alors, qui était cet individu? Un complice? Cette hypothèse d'un complice fut adoptée par la presse et par le public. Ganimard, le vieil inspecteur principal, Ganimard la défendait non sans raison.
« Il y a du lupin là-dessous, » disait-il au juge.
« Bon, » ripostait celui-ci, « vous le voyez partout, votre lupin. »«
Je le vois partout, parce qu'il est partout. »
« Dites plutôt que vous le voyez chaque fois où quelque chose ne vous paraît pas très clair. D'ailleurs, en l'espèce, remarquez ceci. Le crime a été commis à 11h20 du soir, ainsi que l'atteste la pendule et la visite nocturne dénoncée par les concierges n'a eu lieu qu'à 3h du matin. »
La justice obéit souvent à ces entraînements de conviction qui font qu'on oblige les événements à se plier à l'explication première qu'on en a donnée. Les antécédents déplorables de Victor Danègre, récidiviste, ivrogne et débauché, influencèrent le juge, et, bien qu'aucune circonstance nouvelle ne vînt corroborer les 2 ou 3 indices primitivement découverts, rien ne put l'ébranler. Il boucla son instruction. Quelques semaines après, les débats commencèrent. Ils furent embarrassés et languissants. Le président les dirigea sans ardeur. Le ministère public attaqua mollement. Dans ces conditions, l'avocat de Danègre avait beau jeu. Il montra les lacunes et les impossibilités de l'accusation. Nulle preuve matérielle n'existait. Qui avait forgé la clé? L'indispensable clé sans laquelle Danègre, après son départ, n'aurait pu refermer à double tour la porte de l'appartement. Qui l'avait vue, cette clé? Et qu'était-elle devenue? Qui avait vu le couteau de l'assassin? Et qu'était-il devenu?
Et en tout cas, concluait l'avocat, prouvez que c'est mon client qui a tué. Prouvez que l'auteur du vol et du crime n'est pas ce mystérieux personnage qui s'est introduit dans la maison à 3h du matin. La pendule marquait 11h, me direz-vous. Et après? Ne peut-on mettre les aiguilles d'une pendule à l'heure qui vous convient?
Victor Danègre fut acquitté. Il sortit de prison un vendredi au déclin du jour, amaigri, déprimé par 6 mois de cellule. L'instruction, la solitude, les débats, les délibérations du jury, tout cela l'avait empli d'une épouvante maladive. La nuit, d'affreux cauchemars, des visions, d'échafauds le hantaient. Il tremblait de fièvre et de terreur. Sous le nom d'Anatole Dufour, il loua une petite chambre sur les hauteurs de Montmartre et il vécut au hasard des besognes, bricolant de droite et de gauche. Vie lamentable. 3 fois engagé par 3 patrons différents, il fut reconnu et renvoyé sur le champ. Souvent, il s'aperçut ou crut s'apercevoir que des hommes le suivaient, des hommes de la police. Mais il n'en doutait point, qu'ils ne renonçaient pas à le faire tomber dans quelque piège. Et d'avance, il sentait l'étreinte rude de la main qui le prendrait au collet. Un soir qu'il dînait chez un traiteur du quartier, quelqu'un s'installa en face de lui. C'était un individu d'une quarantaine d'années, vêtu d'une redingote noire, de propreté douteuse. Il commanda une soupe, des légumes et un litre de vin. Et quand il eut mangé la soupe, il tourna les yeux vers Danègre et le regarda longuement. Danègre pâlit. Pour sûr, cet individu était de ceux qui le suivaient depuis des semaines. Que lui voulait-il ? Danègre essaya de se lever. Il ne le put. Ses jambes chancelaient sous lui. L'homme se versa un verre de vin et emplit le verre de Danègre. « Nous trinquons, camarade ?» Victor balbutia.
« Oui, oui, à votre santé, camarade. »«
À votre santé, Victor Danègre. » L'autre sursauta.
« Moi, mais non, je vous jure. »«
Vous me jurez quoi ? Que vous n'êtes pas vous, le domestique de la comtesse ?»
Quel domestique ? Je m'appelle Dufour. Demandez au patron.
Dufour, Anatole, oui, pour le patron. Mais Danègre pour la justice. Victor Danègre.
Pas vrai, pas vrai. On vous a menti.
Le nouveau venu tira de sa poche une carte et la tendit. Victor lut Grimaudan, ex-inspecteur de la sûreté, renseignement confidentiel. Il tressaillit.
Vous êtes de la police ?
Je n'en suis plus, mais le métier me plaisait et je continue d'une façon plus lucrative. On déniche de temps en temps des affaires d'or, comme la vôtre.
La mienne ?
Oui, la vôtre. C'est une affaire exceptionnelle, si toutefois vous voulez bien y mettre un peu de complaisance.
Et si je n'en mets pas ?
Il le faudra. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. Une appréhension sourde envahissait Victor Danègre. Il demanda
« Qu'y a-t-il ? Parlez !»«
Soit, » répondit l'autre. « Finissons-en. En deux mots, voici. Je suis envoyé par Mademoiselle de Saint-Clève. »«
Saint-Clève ? » ?»«
L'héritière de la comtesse d'Andillot. »
Eh bien ?
Eh bien, Mademoiselle de Saint-Clève me charge de vous réclamer la perle noire.
La perle noire ?
Celle que vous avez volée.
Mais je ne l'ai pas.
Vous l'avez.
Si je l'avais, ce serait moi l'assassin.
C'est vous, l'assassin. Danègre s'efforça de rire.
Heureusement, mon bon monsieur, que la cour d'assises n'a pas été du même avis. Tous les jurés, vous entendez, m'ont reconnu innocent. Et quand on a sa conscience pour soi et l'estime de 12 braves gens.
L'ex-inspecteur lui saisit le bras. Pas de phrase, mon petit. Écoutez-moi bien attentivement et pesez mes paroles. Elles en valent la peine. Danègre, 3 semaines avant le crime, vous avez dérobé à la cuisine la clé qui ouvre la porte de service. Et vous avez fait faire une clé semblable chez Outard, serrurier 244 rue Oberkampf.
Pas vrai, pas vrai !
Gronda Victor.
Personne n'a vu cette clé, elle n'existe pas.
La voici. Après un silence, Grimaudan reprit. Vous avez tué la comtesse à l'aide d'un couteau à virole acheté au bazar de la République, le jour même où vous commandiez votre clé. La lame est triangulaire et creusée d'une cannelure.
De la blague, tout cela. Vous parlez au hasard. Personne n'a vu le couteau.
Le voici. Victor Danègre eut un geste de recul. L'ex-inspecteur continua. Il y a dessus des taches de rouille. Est-il besoin de vous en expliquer la provenance ?
Et après ? Vous avez une clé et un couteau. Qui peut affirmer qu'il m'appartenait ?
Le serrurier, d'abord, et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau. J'ai déjà rafraîchi leur mémoire.
En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître. »
Il parlait sèchement et durement, avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des assises, ni l'avocat général ne l'avaient serré d'aussi près, n'avaient vu aussi clair dans des choses que lui-même ne discernait plus très nettement. Cependant, il essaya encore de jouer l'indifférence.